tous. Bienvenue à cette matinée de réflexion donc, sur ces synergies entre mieux vivre sur une planète en meilleure santé, cette synergie entre santé et développement durable, santé individuelle en quelque sorte et santé globale ou santé de la planète. Merci à l'organisation COP21 de m'avoir invité pour animer cette discussion. C'est une thématique qui nous intéresse aussi énormément dans les médias aujourd'hui. Moi, je travaille pour la RTS, donc pour les émissions Temps Présent et 36.9, des émissions qui sont concernées par ces problématiques d'environnement et de santé. Et c'est vrai que c'est une réflexion assez actuelle de savoir comment on peut aussi expliquer que tout est intriqué finalement. Que le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement des ours polaires qui souffrent sur une banquise qui fond, mais que le réchauffement climatique a aussi un impact sur la santé, sur des vecteurs de maladies, sur la surmortalité des nourrissons ou des personnes plus âgées, sur le prix des aliments et aussi sur la pollution hein, de l'air, entre autres. Donc c'est vraiment une réflexion, je pense, qui est au centre de différents métiers, et c'est en ça que c'est intéressant aussi aujourd'hui, d'avoir cette table ronde, cette discussion avec différents acteurs de différents domaines pour essayer de trouver des synergies en fonction aussi des compétences et des connaissances de chacun. Une réflexion que l'on veut justement sur un mode très horizontal, à l'image des cafés scientifiques pour ceux qui connaissent. Donc l'idée c'est de ne pas avoir une discussion, disons une présentation ex cathedra type universitaire, mais vraiment qu'on ouvre la discussion à l'ensemble de l'auditoire, pour que vous aussi donc, vous puissiez poser des questions, et mon rôle c'est justement que tout le monde puisse questionner aussi ces synergies naissantes, existantes pour certaines. Et pour lancer cette réflexion, donc avant que les différents intervenants viennent ici et dans ce petit hémicycle que l'on a préparé, je vous propose une petite introduction justement pour lancer cette réflexion sur ces synergies entre santé et développement durable, avec Marcos Veil, qui est urbaniste, paysagiste à Genève, et sa conférence, c'est sur justement le rôle de sa profession dans la construction d'une ville favorable à la santé. C'est une conférence qui durera environ 20 minutes, suite à laquelle nous aurons cette discussion sur un type de café scientifique. Donc merci Marcos, et je vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez tenter avec le micro ?
Merci, bonjour. Je vous remercie pour cette invitation qui m'offre la possibilité finalement d'apporter un éclairage sur les liens entre développement durable et santé, surtout et notamment dans ce qui a trait à la production de la ville. En effet, en tant qu'urbaniste, c'est ce point de vue très pragmatique, avec 30 ans d'expérience sur le terrain, que je peux vous apporter aujourd'hui. Cela étant, les interactions entre santé, développement durable, urbanisme sont extrêmement vastes et complexes. Alors évidemment, en 20 minutes, je ne ferai que survoler le sujet, au risque parfois de prendre quelques raccourcis périlleux. Et en plus, alors je m'excuse d'avance pour ceux qui m'auraient déjà entendu le 9 février, on m'a demandé de faire la même présentation que lors d'un colloque précédent, donc pour ceux qui étaient déjà là, je vous impose une répétition de mon discours. Au fond, inviter un urbaniste à parler de santé, c'est assez gonflé quand même, hein, parce que moi je n'ai pas de blouse blanche, quelle est ma légitimité à parler de santé ? Il n'empêche que je suis régulièrement invité dans des congrès de médecins. Et c'est amusant car c'est une sorte de juste retour aux origines de notre discipline. Ce sont en effet des enquêtes épidémiologiques sur les quartiers insalubres qui ont conduit au tournant des 19e et 20e siècles aux théories hygiénistes sur la circulation de l'air, de l'eau, de la lumière. Donc c'est grâce aux médecins finalement que sont nés les premiers règles de police de construction organisant les bâtiments, l'habitat, les voiries. Alors, des rues ont été percées, d'autres élargies, toujours avec grande délicatesse, il est vrai. Les usines ont été transportées à la campagne, les constructions ont été bien alignées, mais on a beau mettre de l'ordre, la ville reste pathogène. Solitude, stress, criminalité, violence, pauvreté, insécurité sont associés à la vie urbaine. Boue et pollution atteignent la santé de millions de citadins. Les environnementalistes ont alors pris le relais des médecins et la police des constructions s'est étoffée d'un arsenal juridique de lois, ordonnances, règlements sur la protection de l'eau, de l'air, du bruit pour tenter de cadrer les effets néfastes du développement urbain. Aujourd'hui, les médecins reviennent sur le devant de la scène pour lancer une nouvelle alerte. L'urbanisme nous rend malades. Les modes de vie urbains nous rendent sédentaires. Notre environnement est obésogène. Alors, médecins, chercheurs, nous invitent donc, architectes, urbanistes, paysagistes, à produire une ville plus saine, qui favoriserait notamment notre dépense énergétique. Mais fait-on vraiment le poids, comme le prétend l'Ordre des urbanistes du Québec ? Donc ça ressemble beaucoup à une publicité pour produits amincissants. Hein. Alors, médecins, et l'OMS donc, considère la sédentarité comme un des fléaux du XXIe siècle. Alors, dès lors, l'enjeu est de faire bouger les gens dans leur pratique quotidienne. Les spécialistes recommandent 30 minutes de marche par jour, ce qui constitue une activité de moyenne intensité très profitable pour les personnes qui sont peu actives, car pour celles-ci, un petit effort se traduit tout de suite par de très grands bénéfices. Et pour nous, urbains et sédentaires, l'activité physique la plus quotidienne, la plus élémentaire, la plus banale, la plus basique, c'est la marche à pied. Et je dirais, ça tombe bien, car en tant qu'urbaniste, ma matière première, si vous me passez l'expression, ce sont les gens. Et la marche concerne tout le monde. Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, à mobilité réduite, tout le monde marche pour les loisirs, l'école, le travail, les achats. On oublie parfois que le piéton n'est pas seulement un automobiliste qui a réussi à trouver une place de stationnement, comme l'affirmait malicieusement Pierre Dac. Alors, en termes de santé publique, l'enjeu est considérable. Aujourd'hui, dans le monde, il y a, selon les études, plus de décès et de maladies dues à l'obésité qu'à la malnutrition. Alors, que peuvent faire des urbanistes ? Bon, mis à part écrire des livres, donner des conférences, je dirais beaucoup et pas grand-chose. Modestement, beaucoup, parce que l'urbanisme définit des conditions cadres qui peuvent, par exemple, entraver ou, au contraire, favoriser des activités qui requièrent la force humaine, comme la marche ou le vélo. Humblement, pas grand-chose, parce que d'une part, le fait d'utiliser ou non ce potentiel relève de comportements individuels, et d'autre part, parce qu'on n'a pas toujours le moyen d'agir sur les vrais leviers qui produisent notre environnement construit. Or, si on veut introduire la santé dans les politiques publiques qui produisent nos villes et nos quartiers, et que cela ne se limite pas à un catalogue d'actions thérapeutiques où l'on vient réparer les dégâts causés par d'autres politiques, ça vaut la peine de comprendre les impacts de l'organisation territoriale et de l'aménagement urbain sur la santé, car ce sont des déterminants importants et parce que l'urbanisme relève des compétences des collectivités publiques. Je vais donc illustrer certains liens entre aménagement urbain et santé à travers différentes échelles, du grand territoire au pied d'immeuble, pour voir avec vous ce qui relève de politiques publiques, ce qui est déterminé par l'aménagement urbain, et finalement ce qui relève de comportements individuels. L'organisation territoriale issue de ces 50 dernières années est marquée par une spécialisation des espaces et une séparation des fonctions entre habitat, travail, achat, loisirs. Il en découle évidemment une intense circulation automobile entre ces espaces, de plus en plus éloignés, avec pour conséquence des nuisances de bruit, de pollution, d'insécurité qui affectent la santé des populations. Si on veut inverser cette tendance, il faut rapprocher ces pôles et développer un urbanisme de court trajet, c'est-à-dire disposer d'une mixité d'usages et d'une densité de destination afin de permettre un accès aisé au commerce, services, emplois, espaces de détente, car plus courtes seront les distances pour atteindre des services et plus il y aura de raisons de pratiquer la marche ou le vélo, qui sont des modes de déplacement particulièrement adaptés au court trajet. Au contraire de ces types de développement urbain basés sur l'automobile et qui malheureusement représentent un héritage considérable sur lequel il est très difficile d'agir. Ces corrélations ont été largement mises en évidence par de très nombreuses études. Mais une corrélation n'est pas une cause. Un urbanisme de court trajet est à l'opposé de politiques publiques qui, par exemple, investissent massivement dans la construction d'autoroutes permettant ainsi aux centres commerciaux de s'implanter en périphérie, là où il n'y a pas de contraintes, notamment en termes de places de stationnement, par exemple. Ben évidemment, ce n'est pas dans ces villes que l'on ira au travail à vélo ou à pied, dépensant au passage notre surplus d'énergie. Donc les formes d'urbanisation et d'organisation territoriale ont un lien avec la santé, via notamment l'activité physique et le taux d'obésité. On le voit sur ce graphique, la corrélation inverse entre la pratique de la marche et du vélo et le taux d'obésité. Ainsi, voilà, des objectifs vertueux en matière de santé ou d'aménagement du territoire peuvent être contrecarrées par d'autres politiques fiscales de transport qui alimentent l'étalement urbain. Derrière chacune de ces images, il y a des choix ou des non-choix de politiques publiques. Ce n'est pas une fatalité. À l'échelle de la planification urbaine, il y a trois leviers d'action principaux. La politique des transports, celle de l'aménagement des espaces publics et à cheval entre les deux, l'aménagement des rues, qui relève autant d'espaces publics que des transports. La politique des transports définit les priorités qu'une ville accorde aux différents modes de déplacement, comment l'espace est partagé, quelle place est donnée aux mobilités actives. Malheureusement, trop peu de villes ont osé franchir le pas et affirmer que les modes doux sont prioritaires dans les déplacements urbains. Les budgets alloués aux infrastructures routières sont en général sans commune mesure à ceux alloués aux piétons et aux cyclistes. Et ces priorités politiques se matérialisent dans l'espace. Ici, devant une école, on voit l'espace à disposition pour la voiture et celui réservé aux piétons. De fait, l'espace public, la manière dont il est partagé, dont il est aménagé, reflète les valeurs de notre société. En termes de santé, de nombreuses études montrent des relations entre la présence de zones piétonnes et la pratique de la marche. Ce qui nous amène au deuxième levier d'action, l'aménagement des espaces publics, qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour les villes et fait l'objet de politiques largement engagées. De nombreuses études permettent d'établir une relation entre qualité de l'environnement et pratique de la marche de loisirs. La présence de parcs, de places, d'un environnement de qualité est un facteur qui non seulement influence le niveau d'activité physique, mais qui a également des effets positifs sur la santé mentale, le développement des enfants, la cohésion sociale. Créer des nouvelles places publiques et parcs, ben, c'est pas évident en ville, vous le savez aussi bien que moi. L'espace est une denrée rare, au point que selon la très jolie formule de Michel Busseau que j'aime bien citer, la lutte des places a remplacé la lutte des classes. Mais on peut aussi imaginer un usage de l'espace différencié dans le temps. Un parking peut devenir à certains moments un espace de jeu, de sport, ce qui se fait sans problème pour des raisons commerciales, pour réaliser un marché, on enlève les places de parking, pourrait aussi se faire pour des activités ludiques ou sportives. À l'articulation entre politique de transport et espace public, il y a l'aménagement des rues. Avec l'évolution phénoménale du trafic automobile, cela fait déjà bien longtemps que nos rues ne sont plus des espaces de jeu. Elles sont devenues au contraire un espace hostile et dangereux. Du coup, pendant longtemps, la doctrine était la séparation des flux, piétons d'un côté et voitures de l'autre. Parfois, en envoyant le piéton sous terre au sens propre, avec les conséquences que l'on connaît, ou au sens figuré. Remarquez que même en surface, le confort des trottoirs est loin d'être une pratique généralisée, et le parcours en ville ressemble parfois à un parcours du combattant. Les obstacles à la mobilité piétonne sont de toute nature. Pour les seniors, par exemple, population de plus en plus nombreuse, l'absence de lieux pour s'asseoir est un des facteurs qui peut entraver leur mobilité. Or, les personnes âgées se déplacent plus fréquemment à pied que la moyenne de la population et ont besoin de bancs pour ponctuer leur parcours. Ici, une initiative intéressante de la Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires qui a publié un petit guide de promenade pour faire découvrir les bancs des villes et ainsi inciter les seniors à marcher. Enfin, un des principaux obstacles à la mobilité piétonne réside bien entendu dans l'insécurité. C'est pourquoi on développe dans les villes des zones de rencontre où la vitesse est limitée à 20 km/h et la priorité donnée aux piétons. Le rapport de force est inversé. L'espace est partagé et nécessite donc le respect des autres usagers. Dans un tel espace pacifié, la marche et le vélo reprennent droit de cité, et l'on peut espérer retrouver un peu d'urbanité au sens premier du terme, c'est-à-dire pour moi la politesse des villes. On le voit sur ces photos. La politesse des villes, c'est peut-être la manière de laisser la place aux autres. C'est les règles qui définissent le partage de l'espace. Parce qu'il y a différentes manières de partager l'espace. On peut partager un espace en le divisant, en le segmentant, en donnant une tranche à chacun, ou on peut partager l'espace en le mettant en commun pour tous. Ces deux approches sont deux conceptions de la ville, deux manières différentes de faire communauté. Et ces photos illustrent pour moi l'importance que j'accorde aux piétons en tant que manière de concevoir la ville. Les piétons sont les garants de l'urbanité. Dans ma pratique professionnelle, je cherche à mettre le piéton au cœur du projet, Car la marche, c'est pas seulement un mode de déplacement, c'est une manière de penser la ville et ainsi de placer l'individu au centre des préoccupations, au centre du projet. Alors la diminution de la circulation automobile et de la vitesse présente bien entendu de grands bénéfices en termes de santé. Diminution du bruit, de la pollution, diminution des accidents et de leur gravité, augmentation aussi des interactions entre habitants d'une même rue. Ce schéma, tiré d'un livre de Richard Rogers, montre que l'intensité du trafic automobile est un facteur de ségrégation sociale, d'exclusion, de solitude, qui amène aussi un appauvrissement des contacts de voisinage. Donc, les zones à vitesse modérée sont évidemment particulièrement adaptées à l'échelle des quartiers. À cette échelle, on retrouve bien entendu les mêmes facteurs favorables à la marche qu'à l'échelle de la ville, la proximité de services, d'équipements, la présence de parcs et de promenades qui favorisent la pratique de la marche de loisirs, la présence d'équipements de sport qui est facilement accessible et qui favorise la marche utilitaire et la pratique sportive, et bien entendu d'avoir un réseau avec une grande connectivité ou, pour reprendre une expression de David Mongin, d'avoir une ville passante. J'en viens à l'échelle des immeubles, qui me tient tout particulièrement à cœur, car c'est l'espace du quotidien et de l'ordinaire. Le pied des immeubles est un lieu particulièrement important pour les enfants et les adolescents, car c'est là qu'ils aiment se retrouver, même s'ils ne sont pas toujours les bienvenus. Or, pour que les enfants puissent gagner de l'autonomie, développer des relations sociales, il faut qu'ils puissent progressivement s'éloigner de leurs parents et découvrir leur environnement. Plus ils grandissent, et plus la distance qu'ils peuvent explorer doit être grande. Or, si son environnement ressemble à ça, l'enfant il est prisonnier. Soit il reste devant la télévision, la PlayStation, soit il trouve un adulte pour l'aider à traverser la rue pour aller au parc. Ce qui ne va favoriser ni l'indépendance de l'enfant, ni celle des adultes, toujours obligés de surveiller et d'accompagner. Alors, selon la formule un peu choc du docteur Huttenmoser, qui a travaillé sur ces questions, il disait « Quand on laisse les voitures en liberté, on met les enfants en cage. » Et l'enquête qu'il avait menée à Zurich à l'époque avait évalué les activités que les enfants pratiquent dans les places de jeu et celles qu'ils pratiquent dans les espaces de proximité. Et on voit qu'il y avait beaucoup plus d'activités ludiques et sportives qui se pratiquent au pied des immeubles, évidemment quand l'aménagement le permet, que dans les places de jeu, sauf la balançoire, bien entendu, qu'on ne trouvait que en présence des places de jeu. Et les résultats de ces enquêtes, on peut les mettre en relation aussi avec d'autres études. C'est que plus les enfants peuvent sortir, moins ils regardent la télévision, et la corrélation entre le temps passé devant la télévision et le risque de prévalence d'obésité. D'où l'importance majeure de pouvoir redonner un caractère plus domestique, plus ludique aux espaces collectifs, afin qu'un jour on ne dise plus qu'on sort dans la rue, mais qu'on entre dans la rue. Il faut créer au pied des immeubles des espaces qui favorisent la co-veillance plutôt que la surveillance. Alors aménager le pied des immeubles de manière à rendre ces espaces plus conviviaux, on sait le faire, ce ne sont pas les bons exemples qui manquent. Encore faudrait-il que l'on bouscule les mécanismes économiques qui font que créer des places de stationnement rapporte à son propriétaire, alors qu'un espace vert coûte à l'entretien et nécessite une surveillance sans faille pour que les enfants n'abîment pas les pelouses. Donc c'est pour moi une évidence et une nécessité de redonner aux piétons et aux enfants le droit de cité. Dans les colloques auxquels je suis invité, je propose de faire de la présence des enfants dans l'espace public un indicateur de qualité de ville. Et ça peut paraître paradoxal, mais je constate que dans notre société où les enfants sont rois, le royaume est de plus en plus virtuel et de moins en moins réel. D'ailleurs, une récente étude britannique a mis en évidence que les rayons d'action des enfants avaient diminué de 90% ces 30 dernières années. Et l'année passée, d'ailleurs, Projovin Touté a lancé une campagne visant à donner plus de places de jeu pour les enfants en ville. Comme je l'ai dit en introduction, en termes de santé, les aménagements urbains sont nécessaires mais pas suffisants. Car le fait d'utiliser ou non ces aménagements relève de comportements individuels. Eh oui, il faut donc aussi changer nos habitudes, nos pratiques, nos comportements. Alors, mettre les voitures ailleurs que devant sa propre porte nécessite aussi de modifier notre relation à la voiture. Et peut-être qu'il faudrait passer de l'égo-mobilité à l'éco-mobilité. Ce n'est pas seulement une question d'aménagement, c'est aussi une question de comportement individuel. Ainsi, la population à l'activité physique soulève aussi des questions complexes de gouvernance et de politique publique. Comment transférer une certitude scientifique, marcher 30 minutes par jour pour maintenir un indice de masse corporelle correct, par exemple, dans nos pratiques quotidiennes? On ne peut pas prescrire une dose d'urbanisme comme antidote à la sédentarité de la même manière que les médecins prescrivent des remèdes à leurs patients. Nous, urbanistes, citoyens, ne sommes pas dans un rapport d'extériorité à la ville comme l'est le médecin avec le malade. Nous tous, au jour le jour, faisons la ville et la ville nous fait. Alors faut-il légiférer pour obtenir l'obéissance des citoyens? Peut-on interdire d'être gros? Est-ce que c'est une mesure de prévention, comme l'interdiction de la fumée ou le port obligatoire de la ceinture de sécurité? Jusqu'où l'action publique peut-elle interférer sur la sphère privée? On peut bien entendu faire de l'information. Il y a des campagnes de publicité qui sont mises en place pour obtenir l'adhésion volontaire des populations. Mais font-elles vraiment le poids par rapport au bombardement publicitaire pour la consommation de produits gras et sucrés? On peut en douter. Alors faut-il être plus incitatif, transformer nos villes en salles de gymnastique et équiper les trottoirs de machines à marcher? Alors de mon point de vue d'urbaniste, il faut surtout revoir notre manière de faire la ville qui fabrique, un peu de manière incontrôlée, des espaces urbains automobiles, stériles, hostiles aux piétons. Les exemples que je vous ai présentés montrent qu'il y a des logiques sectorielles et des politiques contradictoires qui ont toutes des incidences en matière de santé. Le constat n'est pas nouveau. La question, c'est comment faire avec. Une partie des réponses relève certainement du champ politique et institutionnel, mais j'aimerais conclure par ce qui relève de mon champ professionnel et de mes convictions. Aujourd'hui, 50% de la population mondiale vit dans les villes. L'enjeu majeur consiste donc à conjuguer ensemble qualité de vie et qualité de ville. C'est un grand défi des politiques publiques. Ma première conviction est que pour rendre les villes marchables, il faut les rendre aimables, c'est-à-dire qu'on ait du plaisir à les parcourir. Construire des villes et des quartiers accueillants aux piétons et aux cyclistes, diversifier les espaces verts, faire des rues intéressantes à parcourir, améliorer la qualité des immeubles et des cages d'escalier sont des ambitions traditionnelles et premières de l'urbanisme. Pour autant qu'on remette le piéton et l'individu au cœur de nos préoccupations, ainsi on retrouvera le plaisir de la ville. Deux exemples. Ici, un très bel aménagement de Pipi Le Thériste, une artiste suisse dans la vieille ville de Saint-Gall, qui a transformé une place en un salon urbain dans lequel cohabitent véhicules et piétons. Et un autre exemple aussi très fameux, la transformation des berges du Rhône, qui était pratiquement une autoroute et un parking, en un magnifique espace de détente. Ma deuxième conviction, c'est la nécessité du décloisonnement professionnel. La complexité des interactions entre domaines nécessite de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents pour dépasser des logiques professionnelles, ne pas répéter nos schémas et nous enliser dans nos certitudes. Travailler ensemble, c'est pas additionner des compétences. Il ne suffit pas d'enfermer un urbaniste et un médecin dans une pièce pour qu'il en sorte une prescription d'aménagement urbain comme antidote au mal-être. Ça doit être organisé pour qu'un véritable dialogue multi-acteurs, multiscalaires, multisecteurs puissent être mis en place. Ma troisième conviction, c'est que la participation des habitants à l'élaboration des projets est un bon moyen de faire des projets qui répondent à leurs attentes. Les démarches participatives ne sont bien sûr pas une recette miracle, mais mon expérience montre que quand elles sont bien menées, elles conduisent à des aménagements plus conformes aux aspirations des habitants et favorisent leur attachement à leur communauté. Bien sûr, ce n'est pas l'urbanisme qui crée la cohésion sociale. Ce sont les individus eux-mêmes qui choisissent de créer ou non du lien social. Mais l'aménagement des espaces collectifs peut contribuer au bien-être et au bien-être ensemble si ces réalisations sont l'occasion de discuter et de débattre avec les habitants. En devenant acteurs et porteurs de projets, en participant au choix d'aménagement de son cadre de vie, cela permet de favoriser le sentiment d'intégration et de bien-être. Se sentir habitant de son quartier et pas seulement occupant d'un logement, c'est déjà un premier pas important vers le vivre ensemble et pas juste côte à côte. C'est dans cette perspective que je situe mon travail d'urbaniste, pas seulement celui d'un expert, mais aussi et de plus en plus celui d'un médiateur qui peut aider habitants et autorités à trouver un terrain d'entente, qui peut essayer de lancer des ponts entre urbanistes et médecins. Je me réjouis de pouvoir confronter nos expériences de professionnels, d'élus, de techniciens, de médecins, de citoyens, car pour moi, l'urbanisme n'est pas une science appliquée, mais une expérience impliquée. Je vous remercie de votre attention.